L'invité de Liberté FM est au téléphone, Jean-Marie Bourland, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve avec plaisir sur notre antenne. Vous êtes coprésident, l'un des coprésidents des patrimoniales de la vallée du Salambre et plus particulièrement sur la commune de Saint-Germain du Salambre. Nous allons évoquer avec vous, qui êtes passionné de vieilles pierres, un projet autour d'un colombier précisément sur la commune de Saint-Germain du Salambre. Il faut sauver, il faut rénover, restaurer ce site qui est à quelques pas d'ailleurs du château de Saint-Germain.
C'est exact. La promotion à l'association des patrimoniales de la vallée du Salambre, notre mission, c'est bien comme souvent la mise en valeur, la restauration et surtout le partage et essayer de laisser aux générations à venir le meilleur de ce qui a pu être fait auparavant. Et si on peut être acteur dans ce travail-là, ça sera une grande satisfaction pour nous. Donc le colombier, oui, alors, pardon, colombier, en fait c'est un pigeonnier. Il semblerait, d'après nos recherches, mais tous les dictionnaires ne sont pas d'accord, il semblerait que le terme colombier soit plus adapté à notre cas. Il caractérise les pigeonniers qui sont construits à l'écart de la dépendance, de la maison, et souvent du château, auquel ils dépendent. Et là, en l'occurrence, c'est sur la route, lorsqu'on traverse Saint-Germain, qu'on prend la direction de Ribérac, qu'on voit tout de suite en sortant du bourg sur la droite, au milieu d'un grand pré, on voit le vestige d'une tour qui fait une dizaine de mètres de diamètre, 5-6 mètres de haut, qui était en fait le colombier dépendant du château de Saint-Germain, qui est tout près, à 50 mètres, et qui est devenu communal il n'y a pas très longtemps, il y a une trentaine d'années. Donc ce colombier-là était... en fait, personne dans la commune, personne ne savait que c'était un pigeonnier, parce que personne n'avait eu la curiosité de rentrer, parce qu'il y avait beaucoup de ronces. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait perdu sa toiture il y a très très longtemps, puisque sur un acte notarié du château en 1880, il est dans l'inventaire, il est fait état d'une tour en ruine. Donc vous voyez, ça fait plus de 150 ans qu'il est décoiffé, et par conséquent, la nature a fait... en sorte qu'à l'intérieur il était rempli de ronces, la partie sommitale aussi de la tour était envahie de végétation, donc personne n'y faisait grand cas, et lorsqu'on pénétrait à l'intérieur, on voit encore d'ailleurs des vestiges des trous de boulins, c'est-à-dire les nids de pigeons. Tout à fait au sommet de la tour, du mur à l'intérieur, et c'est à partir de là qu'on a déduit que c'était un pigeonnier.
Quelle était l'utilité de ce site? Est-ce qu'il appartenait vraiment au château de Saint-Germain-du-Salambre ou à un autre site propriétaire?
Non, c'est bien ça, il appartenait bien au château de Saint-Germain-du-Salambre, et qui a le dernier propriétaire qui a peut-être fait l'usage, était le marquis de Saint-Dastier, mais le marquis de Saint-Dastier n'a jamais habité le château de Saint-Germain, ni Saint-Dastier d'ailleurs. Il habitait, toute la dynastie a habité le château des Bories, au nord de Périgueux, mais il était dans la famille suite à un mariage. Et donc l'utilité, pardon, l'utilité de ce... Elle était double, l'utilité de ces pigeonniers à l'époque féodale. Il semblerait que ça c'est... Il date du XVIIe, le premier serait du XVIe. Et la double utilité, c'était l'élevage des pigeons pour fournir de la viande fraîche à longueur d'année, puisqu'ils ont quand même en majorité, ils ont entre 800 et 1200, 1500 nids chacun, ce qui fait quand même beaucoup, ça fait 2 à 3 000 pigeons. Et la seconde utilité, qui était peut-être l'utilité primordiale, c'était pour fournir ce qu'on appelait la colombine, c'est-à-dire la fiente de ces oiseaux-là, qui était un excellent engrais, et surtout dans la, pour incorporer dans le sol de la vigne, puisqu'il y avait, à l'époque, il y avait énormément de vignes dans nos campagnes périgourdines. Hein, quand on fait des recherches, on trouvait de la vigne un petit peu partout. Et cet engrais était très, très prisé pour la vigne et les jardins aussi, les jardins potagers.
C'était un signe de richesse pour un propriétaire d'avoir un tel bâtiment.
Exactement. D'ailleurs, il y avait une sorte de réglementation parce que il faut reconnaître que les pigeons en liberté sont pas très bien vus dans nos campagnes, même actuellement. La première raison, c'est parce qu'ils se perchent souvent sur les toitures et ils font glisser des tuiles qui sont pas très bien fixées. Mais surtout, ils font quand même des dégâts considérables dans les cultures et notamment après les semis. Donc cette réglementation fixée à peu près à deux couples de pigeons par arpent. L'arpent, c'était à peu près un demi-hectare, quoi. Donc quatre couples à l'hectare. Et à partir de ce nombre ce nombre de nids que l'on pouvait répertorier dans un pigeonnier, on pouvait évaluer la surface de la propriété du seigneur local, qui avait plusieurs métairies, bien sûr, mais le cumul faisait à peu près la surface de la propriété. Il y avait d'ailleurs une réglementation aussi qui l'obligeait à les garder fermés à la période des semis, et juste avant la récolte, notamment du blé, à cause des dégâts qui étaient quand même préjudiciables, doublement préjudiciables, et pour le métayer, et pour le propriétaire, et pour le seigneur, puisque le seigneur avait sa part de récolte. Donc là, il veillait à ce qu'il reste enfermé.
Donc pour en revenir à ce pigeonnier ou colombier de Saint-Germain-du-Salamp, comment se fait-il qu'il soit tombé à l'abandon et en ruine?
Alors la plupart des... Bon, les pigeonniers, la propriété, le droit de propriété était un avantage de la seigneurie qui est tombé, qui faisait partie des privilèges comme les fours banaux, comme les moulins, c'était dans le rôle du ban, hein, de la banalité. Donc il a disparu, ce privilège est tombé avec la chute de l'ancien régime, bien sûr, à la Révolution, et après, à partir de là, tout le monde a eu le droit, toute personne en campagne avait le droit d'avoir des pigeons, donc à ce moment-là, les seigneurs n'avaient plus vraiment l'utilité, et l'autre raison, c'est peut-être avec la première apparition des engrais, alors non pas les engrais chimiques tels qu'on les a connus à partir du XXe, mais les premiers engrais organiques qui ont dû remplacer cette colombine.
Donc aujourd'hui, l'objectif des patrimoniales, c'est de restaurer ce colombier, de le remettre dans l'état originel.
Exactement, c'est-à-dire que c'est un projet, bon, on était quand même un peu malheureux chaque fois qu'on passait devant ce bâtiment en ruine, de le voir se dégrader, même en... Il faut dire que s'il a vécu 150 ans sans toiture, il n'est pas vraiment dégradé comme il aurait pu l'être. Mais le but, donc, alors c'est un projet qui a été initié par l'association, par les patrimoniales, mais qui est porté par la mairie. Et alors, il est bien évident que ça a été un peu compliqué au départ de présenter ce projet à la mairie, étant donné le coût exorbitant de la restauration si on l'a fait faire par des artisans, et il faut reconnaître que ça n'est pas une priorité pour la commune. Actuellement, il y a bien d'autres soucis et des problèmes de financiers pour les petites communes. C'était loin. Alors le but de notre démarche avec mes collègues coprésidents, notamment Serge Larichardu, qui a eu la gentillesse de nous faire bénéficier de son carnet d'adresses très fourni, le but a été de présenter le projet à Madame le maire de façon qu'il ne lui fasse pas peur déjà financièrement. Donc il a fallu trouver un maximum de solutions, de partenariat, d'aide financière bien sûr, faire appel aux bénévolat. Donc on a monté ce projet avec les adresses que l'on avait, notamment la Fondation du patrimoine, les artisans locaux, les propriétaires forestiers, parce que pour refaire une charpente, il nous faut quasiment une vingtaine de chênes. Donc quand on habite la commune comme moi depuis toujours, on connaît quand même pas mal de propriétaires qui nous ont tout de suite dit oui, tu prends ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et les entreprises locales nous ont aussi bien aidés, c'est-à-dire que tout de suite on a pu faire monter l'échafaudage tout autour pour pouvoir travailler correctement en toute sécurité. Un autre entrepreneur nous met à notre disposition des engins de levage pour faire pénétrer à l'intérieur une mini-pelle, parce que la porte est beaucoup trop étroite pour cela. Donc il y a eu un engouement, il y a surtout de la part des bénévoles aussi pour commencer les premiers travaux. Donc à chaque moment, moi ce qui m'a énormément surpris, ça a été la spontanéité avec laquelle les gens ont répondu oui, sans hésitation, que ce soit donc comme je disais, les entreprises, les propriétaires, les bénévoles, et de ce fait, par voie de conséquence, Madame le maire, qui, lorsqu'elle a eu le projet sous les yeux, s'est aperçue que finalement, c'était réalisable, ça allait être une bonne chose pour la commune, et quasiment à moindre frais. Donc là, évidemment, il y a deux étapes. Il y a la première étape, ça a été c'est la maçonnerie, puisqu'il faut quand même remettre en état les murs avant de pouvoir y poser une charpente. Donc la deuxième étape, c'est la charpente qui, elle, ne se fera que dans le cadre d'un chantier école, mais c'est en bonne voie. On n'a pas encore l'assurance de l'avoir, mais on a beaucoup d'espoir. Donc à ce moment-là, ça sera un projet. On a voulu, avec la mairie, conjointement, on a voulu en faire un projet participatif, un projet de territoire, c'est-à-dire que on a des bénévoles de la commune, même extérieurs à la commune, ce qui est quand même très encourageant, puisqu'on y est quand même tous les samedis matin. Alors, il y a des roulements, c'est pas toujours les mêmes, mais on a chaque samedi matin, on a entre 12 et 15, 18 bénévoles qui viennent travailler pendant 2 heures et demie, 3 heures, là, au profit, et qui prennent plaisir à participer. Et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas, que l'on n'a pas l'habitude de voir impliqués dans la commune. Donc ça, c'est aussi un moyen de recréer du lien social autour de ce projet-là fédérateur et qui concerne le patrimoine de la commune.
Bien sûr. À terme, est-ce qu'il sera ouvert au public? Est-ce qu'on pourra le découvrir de l'intérieur?
Alors, bien évidemment, c'est aussi le but, mais là, par contre, ce n'est pas de notre ressort, ce sera du ressort de la mairie et de la nouvelle équipe. Mais le but, évidemment, ça sera d'en faire une salle publique. Alors, est-ce que ce sera une salle d'expo? Est-ce que ce sera une salle de réunion? Est-ce que ce sera une salle pour les jeunes générations? Ça, on n'en sait rien et ça ne nous appartient pas, mais Madame le maire n'a pas encore réfléchi à ce problème-là, puisque bon, son problème immédiat, c'est sa réélection, bien sûr, mais après, oui, ça sera. On aimerait commencer à le rendre public avant qu'il soit terminé. Par exemple, ce chantier école qui concerne la charpente, s'il se concrétise, Il y a de fortes chances pour que cette charpente soit taillée sur place, c'est-à-dire au milieu du pré, à la vue. Il bénéficie d'une excellente visibilité puisqu'il est sur une route très passante. Et ça permettra à la population, mais aux gens qui passent, de s'arrêter, de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce pré, qu'est-ce que sont en train de faire ces ouvriers, ces artisans. Et ça va susciter, j'espère, de la curiosité et au-delà de ça, un intérêt peut-être à plus long terme.
D'où viennent les aides qui vous permettent de réaliser ces travaux de restauration?
Alors bien entendu, la première à laquelle on pense, c'est la Fondation du patrimoine. qui s'engage à nous verser une somme dans le cadre d'une souscription qui va être... La souscription va être ouverte là très prochainement. Elle a pris un peu de retard à cause des élections, bien sûr, comme beaucoup de dossiers, mais ça ne saurait tarder. Et en fonction, alors ce qui est très important dans cette souscription, dans ces souscriptions, ce qui est très important, c'est le nombre de dons. C'est pas, bien sûr, la valeur cumulée des dons est importante, mais ce qui est primordial pour que la Fondation du patrimoine nous aide, c'est de voir le nombre de gens qui sont concernés, qui sont impliqués, qui sont motivés pour donner 10 euros, 50 euros, 100 euros suivant leurs moyens, et une somme qui est bien évidemment défiscalisée à 66%. Mais c'est la quantité qui fait que, parce que si la Fondation du patrimoine voit qu'un projet a suscité l'intérêt de 10 personnes, c'est pas très encourageant. Par contre, s'il y a, pour la même valeur d'argent récolté, la même somme d'argent récolté, s'il y a 10, 20, 100 fois plus de personnes, là ça change quand même les données. Ensuite, il y aura la possibilité, il y a des gens qui ont la chance de pouvoir disposer de sommes d'argent importantes au moment de leur déclaration de revenus pour défiscaliser. Et à ce moment-là, ils font des dons et ils choisissent tel ou tel projet. Et là, on a l'intention de faire une forte communication sur le nôtre pour pouvoir toucher ces gens-là.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces quelques minutes, pour nous avoir présenté donc ces travaux de restauration de ce colombier à Saint-Germain-du-Salambre. Et on se tient au courant, évidemment, pour l'avancement de cette restauration. Merci beaucoup, Jean-Marie Bourland. On peut retrouver des informations sur Internet ou encore sur les réseaux sociaux, hein, puisque l'Association des patrimoniales a des sites propres.
Voilà, alors on communique beaucoup, on a développé les réseaux sociaux, le site internet, il est très récent, mais on s'aperçoit que c'est pas un moyen fondamental pour communiquer, parce que maintenant les gens qui veulent s'informer, ils ont plus besoin d'aller vers l'information, c'est l'information qui vient vers eux, et là le réseau social est indétrônable, donc on a beaucoup développé. Avec l'aide d'une excellente communicante, Isabelle, qui est très connue dans le monde de la radio et des médias périgourdins, Isabelle nous fait un excellent travail, et on s'est aperçu, mais justement, juste pour très brièvement pour terminer, lorsqu'on fait une conférence ou une comment on va faire samedi prochain à Saint-Aquilin sur un sujet qui est pas très fédérateur. Nos publications sur Facebook et Instagram font à peu près entre 500 et 1000 vues en moyenne. Et lorsqu'on a communiqué sur les deux fois sur le pigeonnier, la première fois on a fait 5000, la deuxième fois on a fait 9000 vues en une semaine, on était très surpris. Mais en même temps, il faut dire que les médias, notamment la télévision, fait beaucoup depuis quelques années sur le patrimoine, avec des émissions comme Les Racines et des Ailes, et Chapelle, etc., des émissions de culte, et on s'aperçoit que les gens ont envie de revenir vers cette culture, ce patrimoine un peu oublié, et patrimoine secondaire, on va dire, parce que bon, en Dordogne, il y a des locomotives, hein, mais qui ne sont pas chez nous, en Vallée du Salambre, en Vallée de l'Île, on les a pas trop, excepté peut-être en Vallée de Drôme, Venton, mais dans cette partie du Périgord blanc, on est un peu déshérité, mais ce petit patrimoine-là, on s'aperçoit qu'il suscite quand même un intérêt pas négligeable.
Bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Marie Bourland, pour ces quelques minutes.
Ben merci à vous, c'était avec grand plaisir.